Salih Kebzabo, bonjour.
Bonjour.
Depuis l'instauration de la 4e République, il n'y a plus de Premier ministre au Tchad. Idriss Déby joue la carte du chef de l'État tout terrain. Est-ce que ça marche ?
Ça marche pas. Ça marche pas parce que, d'abord, je fais observer qu'à son âge, il n'est quand même pas loin de 70 ans, on aurait pu penser qu'il déléguerait de plus en plus pour préparer sa sortie. Mais non, là, il reconcentre tous les pouvoirs entre ses mains. Et je ne pense pas que ça puisse marcher. C'est bien pour cela qu'il joue parfois aux sapeurs-pompiers, il va convoquer les maires d'arrondissement pour parler du curage des caniveaux, et il va à la société d'électricité pour dire pourquoi ça marche pas.
Ben ça, c'est pas mal, non ?
C'est pas le travail d'un chef d'État. Ça veut dire que ça marche pas. Un chef d'État, je pense qu'il a autre chose à faire. Il a la vision du pays à mettre en pratique. Il n'a pas que le temps d'aller à la frontière régler les problèmes des douanes, nommer son neveu ou son cousin, je sais pas, à la direction des douanes, alors qu'il n'en a pas les capacités. Non.
Beaucoup disent qu'en l'absence d'un Premier ministre, c'est le secrétaire général de la présidence, Kalzebe Paimi Debe, qui fait office de Premier ministre, non ?
Bon, en réalité, dans le système tchadien, même quand il y avait officiellement, constitutionnellement, le poste de Premier ministre, ça ne valait pas grand-chose. Parlez avec les anciens Premiers ministres et ils vous avoueront que les pouvoirs sont toujours concentrés entre le même du président et même pas du cabinet. Et donc aujourd'hui, peut-être que le ministre d'État Kalzebe est un petit filtre à la présidence là-bas pour dégager certains dossiers qui n'arrivent pas au président de la République, mais les pouvoirs sont entre les mains du président et c'est tout.
Quand cette nouvelle République a été instaurée au mois de mai dernier, vous avez parlé de coup d'État constitutionnel. Pourquoi ?
Absolument, parce que cette nouvelle constitution aurait dû être validée par un référendum. Or, il est passé par l'Assemblée nationale qu'il contrôle trois quarts. Mais sur le fond, c'est la remise en cause des libertés. C'est l'appropriation par le président de tous les pouvoirs. Aujourd'hui, le président tchadien peut signer une ordonnance même pendant la session parlementaire. L'Assemblée nationale elle-même, elle est dessaisie de pratiquement tous ses pouvoirs, y compris le pouvoir de contrôler l'action gouvernementale.
Oui, parce que le gouvernement n'est plus responsable devant la Chambre.
Il n'y a pas de gouvernement responsable.
Alors, vous avez dénoncé ce que vous appelez un véritable crime contre le Tchad et pourtant, le 17 mai, vous avez eu un long tête-à-tête avec le président Déby. Vous l'avez même revu le 19 septembre. Est-ce que ce n'est pas contradictoire ?
Il n'y a pas absolument aucune contradiction. Nous sommes contre la Constitution, nous sommes contre la 4e République, mais il n'en demeure pas moins que c'est une Constitution qui a été adoptée par l'Assemblée nationale. Donc, tout citoyen doit respecter les lois de son pays. Même si nous sommes contre le président Déby, nous devons respecter les lois du pays et reconnaître que, pour le moment en tout cas, il est le président du pays. Et comme nous sommes pour un dialogue inclusif, ce qui dit dialogue dit quand même rencontre. Il faut bien qu'on rencontre le principal intéressé qui est Déby lui-même. On ne peut pas prôner le dialogue inclusif et dire qu'il ne faut jamais rencontrer Déby. Non. Moi, je l'ai rencontré. Ça a fait beaucoup de bruit, c'est vrai, mais pour rien du tout. Les deux chefs de l'État et de l'opposition doivent se rencontrer régulièrement à la demande de l'un ou de l'autre pour discuter des questions nationales ou internationales.
Les législatives étaient prévues d'ici la fin de cette année. Elles sont reportées au plus tôt au mois de mai prochain. Qu'en pensez-vous ?
Mais je pense que là aussi, ce sont les dérives du système personnel. Il faut que les élections dans un pays soient ponctuées de façon régulière, qu'on soit rigoureux pour cela. La première législature a duré 6 ans, la deuxième 9 ans, et celle en cours est en train de dépasser les 7 ans. Ce n'est pas normal, c'est antidémocratique.
Pensez-vous que les législatives de l'année prochaine pourront être plus transparentes que la présidentielle de 2016 ?
Je l'espère. Il y a des engagements qui ne sont jamais tenus, il y a des lois qui sont violées en permanence, donc c'est une question de rapport de force sur le terrain. Il faut y aller, il faut aller aux législatives, et je crois que si l'opposition est intelligente et peut unir ses forces, on peut faire un bon score.
Depuis le 26 octobre, il y a une accalmie sur le front social, les syndicats acceptent de suspendre leur grève jusqu'au mois de janvier prochain, n'est-ce pas une victoire pour le gouvernement ?
Bon, dire que c'est une victoire serait une insulte pour les syndicats. Mais je pense que, comme disait un célèbre syndicaliste français à l'époque, il faut savoir finir une grève. 5 mois, 5 à 6 mois de grève, c'est trop long, même au Tchad. Ça a coûté trop cher à beaucoup de gens. Les gens étaient fatigués. Il fallait y mettre fin, je crois que c'est ce que les syndicats ont été obligés de faire. C'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de concessions au gouvernement, mais le gouvernement, en retour, n'a pas respecté jusqu'à maintenant ses engagements. Et j'ai peur qu'avant janvier, on reparte encore.
Mais depuis l'accord avec le négociant suisse Glencore et depuis le décaissement FMI, il y a quand même une bouffée d'oxygène pour votre pays, non ?
C'est ce qu'on pense. Il devrait avoir plus qu'une bouffée d'oxygène parce que l'accord avec Glencore, qui est effectif depuis le mois de juin, lève quand même le pied un peu sur les obligations, notamment la vente du pétrole qui était confiée à Glencore revient maintenant au Tchad. Et même il y a 2 années, je pense, qui permet au Tchad de souffler un peu, de différer de paiement. Mais dans la pratique, on ne voit pas ces retombées-là, malgré, d'autre part, la montée du cours du pétrole. Où vont les recettes fiscales et pétrolières du Tchad ?
Donc pour vous, le premier fléau, ça reste la corruption ?
Absolument. C'est une corruption quasi institutionnelle. Et quand on voit qu'aujourd'hui encore, le président Déby n'a pas revu son mode de gouvernance, ben on se pose quand même beaucoup de questions. On continue à détourner et il n'y a pas de sanction. Et il y a encouragement, je pense même, à détourner parce que vous prenez les autres nominations dans les autres régies financières, c'est toujours le même système qui est en place, un système de prédation au sommet. Et je ne pense pas que le pays puisse s'en sortir comme cela.
Nouveau bruit de bottes dans le nord du Tchad. Depuis le mois d'août, plusieurs localités du Tibesti sont attaquées par par les rebelles. Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais c'est une guerre de troupes. Le Tchad ne peut pas se permettre aujourd'hui encore de retomber dans une situation de guerre comme celle que nous avons connue. On pensait depuis 10 ans que le Tchad avait pris la bonne direction, mais cette paix où le pays est pris en otage par une partie de ses citoyens qui sont armés n'est pas une vraie paix. Quand on demande un dialogue inclusif, c'est parce que ce dialogue-là va nous amener à nous asseoir tous les Tchadiens. Aujourd'hui, le président Déby, en faisant de la guerre du Nord une affaire vraiment personnelle, est en train d'aggraver la situation. Il est dans une erreur grave. C'est même une faute politique qu'il est en train de commettre en excluant pratiquement tout le pays de ce qu'il est en train de faire. On n'a même pas droit à l'information. Tout le monde se demande ce qui se passe. Les seules sources d'information sont celles de la rébellion, mais le gouvernement reste muet sur cette question.
Pourquoi dites-vous une affaire personnelle?
On constate tout simplement le déplacement des troupes. On constate que l'aviation a été mobilisée. On constate qu'il y a des milliers de voitures militaires qui sont entrées par le Soudan, qui ont été achetées pour l'armée nationale. On constate que beaucoup d'argent est dépensé dans cette guerre qui ne dit pas son nom. Il y a des crimes de guerre qui sont commis par l'armée tchadienne. Donc je pense que tout cela devrait rentrer dans l'ordre si on acceptait vraiment d'en faire une affaire nationale et qu'on ouvre un dialogue sur toutes ces questions-là, y compris les questions de l'extrême nord du Tchad.
Vu de Paris, le Tchad est avec la Mauritanie l'un des deux piliers militaires du G5 Sahel. Est-ce que cela ne vous isole pas, vous, les opposants tchadiens sur la scène franco-africaine?
Oui, bien entendu que depuis que Déby a su se positionner dans cette affaire de lutte contre le terrorisme, il a maintenant la faveur de tout le monde, de tous les pays occidentaux, de toutes les organisations internationales.
Il était au premier rang lors des cérémonies du 11 novembre avec son épouse, Inda.
Oui, évidemment, lorsque pour Trump ou pour Macron ou pour Merkel, tous les grands de ce monde pensent qu'il faut s'unir pour lutter contre le terrorisme et que c'est devenu la priorité des priorités dans le monde. Et si l'on sait par ailleurs que Déby sait faire, il a une armée qui sait faire, une armée dont on peut se servir, et c'est largement ce qu'on est en train de faire actuellement, il faut bien qu'il soit payé en retour. Et qui pourrait perdre en retour? C'est évidemment les populations tchadiennes, parce qu'elles sont totalement exclues de tout ce jeu-là, et forcément l'opposition. Mais je pense que c'est précaire.
Salut Kebzabo, merci.